Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1. La radio sauvage.
0.
Quelle heure est-il ?
Et 6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures.
Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7 heures minuit, alors je suis pas bon.
6 heures avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab,
la radio sauvage.
6 heures avant minuit, c'est la quotidienne d'info de Syllab, diffusée à 18h du lundi au jeudi sur le 88.4 FM et DAB+. En ce moment, nous sommes en vacances, alors on vous propose de réécouter nos productions de la saison passée. Compile des reportages du mois de novembre.
Un hackathon, bien plus long qu'un marathon, mais tout aussi épuisant. Les étudiants et étudiantes de Rennes ont une semaine pour créer la meilleure affiche du festival Nos Futurs. Objectif, rendre le festival accessible à tous les types de handicap. Dans chaque groupe, des personnes directement concernées participent au projet.
Des lumières tamisées, quelques murmures. Sur les tables, ordinateurs, crayons et grandes feuilles blanches. L'ambiance est studieuse. Justine, Maxime et le reste de l'équipe des Tigres ont une semaine pour imaginer une affiche et des installations scénographiques autour de l'accessibilité.
J'ai mon copain qui est daltonien. Les couleurs ne sont pas pensées pour lui. Et je trouvais ça intéressant de pouvoir répondre à cette problématique dans le graphisme avec l'affiche qu'on fait pendant ce hackathon.
6 équipes d'étudiants et d'étudiantes en design participent à ce hackathon. À leur côté, une vingtaine de personnes en situation de handicap, comme Samich.
Je suis déficient visuel et malentendant. Je suis en train de réfléchir avec tous les autres, voir si j'ai des éléments à apporter, par exemple dans l'affiche, et puis savoir si ça me parle au niveau de l'accessibilité. Et c'est aussi un défi pour moi, parce que quand on ne voit pas faire du graphisme, c'est hyper compliqué.
Pictogramme, couleur, taille, typographie, chaque détail compte pour concevoir une communication lisible par tous et de garder en tête, comme Victor, le cahier des charges du festival.
Le sous-titre du festival Nos Futurs, c'est « Par les jeunes et pour tout le monde ». Donc on essaye vraiment d'inciter les jeunes à cette parole citoyenne, mais que ce soit un espace de discussion collective. Donc sur notre affiche, c'est représenté par des petits bonhommes personnifiés, un peu dans un style cartoon. C'est des aplats de couleurs, parce que c'est des choses qu'on peut remarquer de loin. Et donc il y a un peu deux niveaux de lecture, donc les personnes qui ont un petit peu plus de mal à voir vont peut-être voir les aplats de couleurs, mais pas les détails des visages. Les personnes qui ont moins de difficultés vont pouvoir percevoir les deux.
À la fin de la semaine, les 6 projets sont soumis au vote du jury et des participants et participantes. Un seul sera sélectionné pour Nos Futurs. Le festival est coordonné par Jade Bechtel.
L'affiche va être retravaillée par le service communication des Champs Libres et les intentions vont être développées par le collectif Rond-Point, collectif de scénographes. De toute façon, en une semaine, on ne peut pas finaliser le travail, donc c'est vraiment un processus et c'est comment eux, ils vont apporter. Et puis ensuite, en effet, cette affiche, on va pouvoir l'avoir dans la ville.
Pour cette deuxième édition, c'est le groupe des artistes qui décroche la première place.
Et l'affiche gagnante sera visible lors du festival Nos Futurs du 27 au 29 mars prochain.
Quelle heure est-il ?
6 heures.
Minuit, pourquoi ?
Syllab.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
Et à minuit, plus personne.
6 heures avant minuit.
Des bignous, des gavottes et beaucoup de danseurs. Bienvenue au plus grand fest-noz du monde. Samedi 18 octobre, l'Afken était au cœur des festivités aux Libertés de Rennes. L'objectif ? Comprendre comment on organise un tel événement, mais surtout, comment la culture bretonne continue de se danser, de se chanter et de se transmettre.
On continue et on va s'arrêter vers Rostrona pour une suite ficelle. Vous allez voir, vous allez comprendre tout de suite.
Les gens, ils ont envie de s'amuser, ils ont envie de se retrouver. Ils ont besoin aussi de l'humain, en fait, du contact physique, de se rapprocher, de se toucher et danser tous ensemble, parce que la danse bretonne, c'est ça aussi. Il y a plein de danses qu'on danse là, qui ne sont pas pure bretonne, mais on les danse quand même avec plaisir. Et c'est justement, c'est un partage, c'est une ouverture aussi d'esprit.
Une salle XXL, un jeu de lumière orange et bleu, Yaouank s'est fait beau pour sa 26e édition. Kémo Veillon est le directeur du festival.
En deux mots, Yaouank, pour moi, c'est la convivialité et la jeunesse bretonne.
Et la culture bretonne. C'est quoi ?
La culture bretonne, elle est diverse. Nous, on essaie de s'en faire la plus belle fenêtre avec notre association. Et Yawank, c'est vraiment tourné plutôt sur les danses et les musiques.
Avec un budget à plusieurs centaines de milliers d'euros, 300 bénévoles et 200 salariés, Kémo nous alerte.
Ce qui est difficile, c'est le contexte politique et économique dans lequel évolue l'ensemble du tissu associatif et des festivals. En fait, c'est devenu compliqué d'organiser un truc sans perdre d'argent. Ça frappe aussi le portefeuille des gens.
Malgré tout, le plus grand fest-noz du monde a réuni 4700 personnes cette année. Pour un marathon musical d'environ 12 heures, Hervé était présent.
On ne définit pas la culture bretonne, on la vit. C'est probablement en Bretagne qu'il y a le plus fort intérêt pour la culture régionale. On voit le brassage des générations. Moi j'ai des cheveux blancs, vous pas.
Yuna était sur scène ce soir. Pour la jeune artiste de musique bretonne, il y a une réponse à ce mix de générations.
La culture traditionnelle, elle existe toujours. Mais évidemment, elle évolue avec son temps et c'est ce qui fait qu'elle perdure toujours. En fait, on essaie de faire en sorte que ça corresponde plus à l'idéologie d'aujourd'hui et à l'évolution des mentalités d'aujourd'hui aussi. Évidemment, y a des valeurs. On défend un peu plus le droit des femmes comparé à l'époque dans les musiques.
Lohan, musicien breton, partage le même constat.
Il y a de plus en plus de festivals qui sont axés sur la culture bretonne avec des vrais combats. Et du coup, c'est de la transmission orale, tout ça. Donc sans la jeunesse, la culture ne peut pas continuer à vivre, quoi.
Et restez avec nous dans cette immersion bretonnesque, mais surtout avec l'Afken qui est partie tester le maquillage et la danse bretonne, parce que le fest-noz, c'est avant tout pour être vécu.
Est-ce que je peux interviewer en même temps que je me fais pocheter ? Cool ! Je le veux bien en vert, s'il te plaît.
En vert, ok, alors je vais essayer. Arrêteuse, paillettes de glace. Ok, Madé. Hop !
Est-ce que pour finir, je peux tous vous demander un mot en breton qui, pour vous, définit le fest-noz ?
Pligadur, plaisir, startigen, c'est l'énergie, mais l'énergie des gens, quoi, voilà, spécifiquement.
C'est kevrediges, ça veut dire, ça peut vouloir dire plusieurs choses, ça peut vouloir dire société, association.
Nosva de Nol. Bonsoir tout le monde, bonne soirée.
Excuse-moi, je peux rejoindre la danse avec toi ?
Mais avec plaisir, je t'en supplie, rejoins-nous.
Top.
Même si tu as le petit doigt très froid, écoute, je m'en accommoderai.
J'essaye de suivre là.
C'est en termes de coordination, c'est complexe, hein ?
Toi, tu t'y connais en danse bretonne ?
Pas du tout.
Mais bon sang, y a personne qui danse la danse bretonne ici !
Absolument personne ! Mais que des parvenus, on vient essayer de sucer le buzz des bretons, c'est tout, hein !
On est dans la découverte, hein !
Vous êtes d'où, vous ?
On est parisiens. On est parisiens. Aïe, aïe, aïe.
C'est la première fois que je fais un fest-noz.
De toute ta vie ?
Oui.
Tu sais que c'est fou de dire ça à des bretons, hein. Et pourquoi vous venez à ce festival-là ?
Bah parce que, attends, le plus grand fest-noz du monde ! Du monde !
L'univers !
L'univers !
Et du coup, toi, tu sais danser la danse bretonne ? Par pitié, apprends-nous.
Un des plus faciles, c'est le plin.
Okay, c'est quoi le plin ?
Le plin, tu fais... gauche, gauche, droite, gauche, droite. Gauche, gauche, droite, gauche, droite.
Ok, ok.
1, 2, 1, 2, 3.
J'ai aucune idée de ce que je fais là.
Franchement, tu vas pas réussir à savoir exactement, je crois. C'est une espèce de sorcellerie. Y a que les gens d'ici qui savent exactement ce qu'ils font. C'est ici qu'il fallait être ce week-end, je crois, en tout cas.
Merci l'Afken pour ces deux reportages et pour être allé au cœur de la culture bretonne.
6h avant minuit. 6h avant minuit.
Les 10, 11, 12 octobre dernier, Anaë s'est rendue au Weekend Tattoos, l'un des plus grands événements de l'association Les Pachas, à la salle du jeu de paume de Rennes, près de la station Sainte-Anne. Dans une petite salle, le bruit des aiguilles retentit. Mélanie en ressort avec un dessin.
C'est ma première édition. Je suis venue parce que je me suis fait tatouer. J'avais un projet hommage à l'un de mes chats décédés depuis pas mal de temps. Et aujourd'hui, c'était l'occasion rêvée pour lui rendre hommage. Je fais partie d'une autre association. Le bénévolat, c'est important. Et si ça peut les soutenir et permettre d'autres prises en charge, avec plaisir.
De 10h à 19h, les quatre tatoueurs, dont une tatoueuse venue d'Angers, réalisent leurs œuvres en continu. Entre deux tatouages, elle nous explique pourquoi elle participe à cette action.
Je l'ai rejoint parce qu'une consoeur et amie qui s'appelle Nathalie Garnier, qui est à l'initiative de ce mouvement pour les Pachas il y a 7 ans déjà, m'a dit « Allez, viens nous rejoindre, tu vas voir, c'est bien ». Et c'est génial, l'ambiance est super, on rencontre plein de gens. Et intéressé par l'association, et intéressé de faire un geste pour l'association, et de repartir avec un petit plaisir. Moi, ça représente beaucoup de choses, parce que moi, j'ai eu des petits chats qui ont été abandonnés, que j'ai récupérés, et c'est une façon de, d'aider tous ces petits chats abandonnés, quoi. Parce que tout le monde a besoin d'un toit aujourd'hui.
Marius, bénévole depuis une dizaine d'années, nous raconte l'origine de l'association Les Pachas et de l'événement.
C'est une association de protection animale, principalement centrée sur les chats, qui est basée à Rennes, aux alentours de Rennes. Et donc le principe, c'est de sauver des chats, généralement par l'intermédiaire de la fourrière ou de particuliers ou de cliniques vétérinaires. Les chats sont placés en famille d'accueil, où ils sont soignés s'ils en ont besoin, ils sont sociabilisés s'ils en ont besoin également. Et puis ils sont proposés à l'adoption et adoptés dans un délai de quelques semaines ou de quelques mois, le temps qu'on leur trouve une famille. Une de nos bénévoles qui a été tatouée par une des tatoueuses présentes à l'événement, qui est un petit peu à l'instigation de l'événement. C'est la 7e édition et donc il y a 7 ans, l'événement se passait dans son shop. Et depuis 3 ans, l'événement a pris un petit peu d'ampleur et donc on se retrouve au Jeu de Paume avec d'autres artistes partenaires de cette édition.
Merci Anaé pour ce reportage. Pour tous ceux et celles qui voudraient aider l'association Les Pachas, vous pouvez devenir maison d'accueil pour des petits chats, faire des dons ou même en parrainer un. Toutes les infos sont à retrouver sur leurs réseaux sociaux.
Quelle heure est-il ?
6h.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
Et à minuit, plus personne.
6h avant minuit.
L'Afken a rencontré des livreurs Uber. On écoute tout de suite son reportage.
Je m'appelle Anwar Al-Hak. Ça fait 5 mois que je fais Uber.
Mon nom c'est Diallo. J'ai fait la livraison presque depuis 2022.
Accompagnés de leur vélo électrique, Amor Hak et Diallo sont livreurs chez Uber Eats. Pour eux, les dangers sur les routes sont bien réels.
Pour moi, le plus dangereux c'est les voitures. Ils ne respectent pas les vélos, c'est grave quand même.
Et c'est pas dangereux, tu trouves, quand tu dois regarder le GPS et en même temps gérer la route si en plus il fait nuit et tout?
Non, comme je suis habitué, c'est pas dangereux.
Hier, Diallo a été heurté par une voiture qui roulait à contresens. Un collègue d'Amor Hak aussi a été percuté par le passé.
Elle a parti à l'hôpital.
Pour les deux livreurs, une solution existe pourtant.
S'il y a les routes de vélo à part, les voitures à part, ça causerait moins de problèmes.
Mais alors que novembre débute, les quatre roues ne sont plus leur seule préoccupation.
Au niveau de l'hiver, là, ça fait peur, hein. Parce qu'il y a la pluie, il y a le vent, quand il fait nuit, il y a les véhicules aussi, il y a d'autres qui ne contrôlent pas.
Diallo et Amor Hak avouent qu'ils ont peur des pavés glissants, de la fatigue et des routes mal éclairées, surtout en campagne. Pourtant, leurs vélos sont équipés, bandes réfléchissantes, lumière avant et arrière, mais quand on leur demande si Uber les aide à se sentir plus en sécurité sur les routes, ils répondent
« Ah là, Uber, t'as donc rien ».
Est-ce que Uber, il vous donne des consignes de sécurité, de matériel, etc.?
Le matériel, c'est nous, on a 7 ans. Ils ne donnent pas le matériel quand même. Pas de formation. Les consignes de sécurité, presque, ça n'existe pas. Hein.
Tu peux contacter Uber? Est-ce qu'ils font quelque chose pour toi si tu as un accident à vélo?
Non, rien. Il ne fait rien. Quand il fait un accident, c'est à toi de débrouiller. Et il ne fait que rembourser les clients. Le reste là, c'est pour toi.
Sur son site web, Uber Eats décrit pourtant des mesures pour mieux protéger ses livreurs. Contacté par mail, Uber n'a pas souhaité donner lieu à un échange téléphonique. La plateforme a cependant confirmé les dispositions disponibles sur son site.
Là, vous avez une course de 10 km à faire.
Ouais, ça, c'est 10 km. C'est bon.
Merci à l'Afken pour son reportage.
6
heures avant minuit.
6 heures avant minuit.
Il y a tout juste une semaine, la scène folk-rock rennaise vibrait au son d'Atrium. Le groupe célébrait la sortie de Watery Grave, son tout premier album, lors d'une release party chargée d'énergie et de complicité, dont les prémices remontent aux années lycées. Une aventure née de la passion, de la collaboration et du bouillonnement créatif local. Watery Grave sera à portée de toutes les mains le 28 novembre prochain.
Nous sommes le 6 novembre et Rennes s'apprête à résonner au rythme d'un nouveau projet musical. Atrium s'apprête en effet à célébrer la sortie de son premier album, Watery Grave, au Café des Champs Libres. Entre folk rock et touches progressives, ce projet est né de la rencontre de musiciens locaux et de l'énergie créative de la ville. Un album engagé, inspiré par les rues, les cafés et les histoires qui font vibrer Rennes. Watery Grave sera disponible officiellement le 28 novembre de cette année.
C'est un peu un vivier aussi à musique émergente, Rennes, et du coup c'est trop bien pour les jeunes projets et tous ces projets qui sont en voie de professionnalisation, parce qu'il y a matière de faire des rencontres et d'être accompagné. Et puis je pense aussi à l'aspect militant d'Atrium, où en fait la rencontre dont on s'est rencontré, bon, rapidement, mais les prémices humaines, c'était quand même sur les blocus des lycées rennais. Et donc il y a aussi tout ce pan et musical et militant aussi au sein de Rennes qui nous a laissé de la place et de l'espace en fait. Donc ouais, Rennes c'est un chouette lieu pour nous. On a une majorité de meufs sur scène et même jusqu'au son. Donc ouais, y a pas mal de choses qui s'imbriquent et qui font que Atrium c'est militant. Ouais.
Basé à Rennes, Atrium fait partie de cette nouvelle génération de groupes qui façonnent la scène locale. Entre les studios partagés, les cafés-concerts et les rencontres entre musiciens, la ville a accompagné la naissance de leur premier album, Watery Grave, qui paraîtra le 28 novembre prochain. Ce 6 novembre, c'est au Café des Champs Libres qu'ils le présentent au public, un lieu symbolique pour la scène indépendante rennaise. En première partie, Cat White, autre nom qui monte dans le paysage folk local, complète une soirée 100% rennaise.
Un reportage signé Roman Flock.
Quelle heure est-il ?
6 heures.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
Et à minuit, plus personne.
6 heures avant minuit.
Depuis le jeudi 29 octobre, le hall d'accueil de l'espace social commun IF à Rennes est occupé par une soixantaine de personnes. Sans hébergement, ces exilés ont été évacués du campement de Morpa sur ordre de la préfecture d'Ille-et-Vilaine. Elles y survivaient depuis avril 2025. Je suis allé à leur rencontre avec Estelle.
J'ai regretté de choisir de venir ici. C'est pas la fraternité, comment dire ici. Il n'y a pas d'aide, il n'y a rien.
Tariq est arrivé d'Algérie il y a 3 ans avec sa femme et leurs 2 enfants. Cet été, toute la famille a vécu sur le campement improvisé de Morpa.
Dans les arbres, pas de lumière, l'eau fraîche pour les petits et tout. Ils ont même ramené les poux dans ses cheveux. C'est pour ça que je ne peux pas rester là-bas. Il n'y a pas même pas une place propre pour jouer et tout.
Siamir Assigle, représentant du collectif des immigrés abandonnés et des mineurs isolés de Rennes, fait lui aussi partie des personnes expulsées du parc.
On ne sait pas comment on va s'en sortir. Là, on est dans les flous. Ils ne nous ont pas même rassurés.
Vendredi 29 octobre, plusieurs associations étaient mobilisées à Simone If. Pour Yann Mency, bénévole chez Utopia 56, la réseau de l'opération ne fait aucun doute.
Tout ce qui se passe là, c'est la suite du campement qui a duré pendant des mois. La mairie, le département, la préfecture, tout le monde s'en est lavé les mains. Ce qu'on demande, c'est des solutions pérennes.
Une occupation pacifique qui a conduit la mairie à fermer le bâtiment au public. Décision incompréhensible pour les associations qui dénoncent une coupure avec les travailleurs sociaux et une mise en tension inutile. Hélène Gianetto, co-déléguée de Solidaire 35, parle même d'une division inquiétante.
Rien aujourd'hui n'obligeait la fermeture de l'espace social commun de Simone If. Ça crée un flou aussi, ça oppose les personnes les plus vulnérables entre elles.
Anne-Françoise Courteil, vice-présidente chargée de la protection de l'enfance, s'est rendue à Simone If pour entendre leur demande.
Nous avons bien entendu réitéré notre demande auprès des services de l'État pour procéder au relogement des personnes. Cette situation ne peut pas durer dans un lieu qui n'est pas adéquat et qui peut présenter à terme des risques de cohabitation, mais aussi d'hygiène et de sécurité.
Les collectifs demandent une rencontre tripartite. L'État, le conseil départemental et la mairie de Rennes. L'objectif, créer une cellule dédiée à la situation des exilés. La mairie souhaite éviter les démarches parallèles, mais pour l'instant, aucune solution concrète n'a été proposée. Du côté des personnes évacuées, le sentiment d'abandon grandit, comme le confie à nouveau Siamir Assigle.
Ce qui est sûr et certain, dès qu'ils ne trouveront pas des solutions durables, ils nous trouveront toujours dans leur chemin.
Face à cette situation, le président du conseil départemental a informé le préfet du dépôt d'un mémoire en référé devant le tribunal administratif de Rennes, enregistré le 13 novembre. Cette démarche fait suite à des manquements aux règles de sécurité constatées par un commissaire de justice et à l'atteinte de la continuité des missions sociales exercées dans ce lieu, essentiel pour de nombreux habitants et habitantes du quartier de Morpa.
6h avant minuit. 6h avant minuit.
Le programme Viens, je t'emmène se déroule à Rennes. Pendant 2 semaines, des associations, des résidents seniors, des lycées ainsi que les services de la ville et du CCAS de Rennes proposent 100 d'actions de prévention à destination des personnes âgées. Parmi les structures mobilisées, la Maison des aînés et des aidants. Leur objectif, lutter contre l'isolement social, faciliter l'accès aux droits des seniors et accompagner les proches aidants des personnes âgées. 2 fois par semaine, la Maison des aînés et des aidants de Rennes organise un café détente. L'odeur du café flotte dans l'air. Dans le brouhaha des discussions, Nicole et Odile font connaissance.
C'est la première fois que vous venez ?
Ah non, moi ça va faire un an.
Objectif, créer du lien, échanger autour des différentes activités proposées et surtout, limiter l'isolement social des personnes âgées.
J'ai pris sur moi et je suis venue frapper à la porte en fait, oui, parce que je vais dépérir quoi. C'est ça, c'est carrément, ça va être la dépression.
Parce que quand on est 2 ou 3 jours sans parler...
Moi, c'était des mois complets sans parler. C'est ça qui m'a fait bouger parce que je me dis, je peux pas rester comme ça, c'est pas possible. Je m'ennuie. J'ai jamais connu ça.
Selon le baromètre des petits frères des pauvres, 750 000 personnes âgées seraient en situation de mort sociale. Catherine accompagne son père, Jean, au café détente. Il se retrouve seul pour la première fois depuis l'hospitalisation de son épouse.
Je fréquente peu de personnes. C'est ma fille, Catherine. C'est grâce à elle que je suis venue là, parce qu'elle a voulu me sortir absolument. Quoi.
Je ne veux pas le savoir seul, à la maison, à ne rien faire.
Je m'aperçois qu'il y a beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses intéressantes pour moi. Il va falloir que je revienne. Quoi.
Il y a les activités et les événements destinés aux aînés, mais aussi les accompagnements pour les aidants. Ces proches qui, au quotidien, soutiennent leurs parents, leur épouse ou leur époux. Soisig Ghislain, directrice de la Maison des aînés et des aidants.
On a à peu près un aidant sur 3 qui ne se reconnaît pas comme tel. On identifie déjà un isolement social, émotionnel, institutionnel. Une difficulté à identifier les ressources, les acteurs qui pourraient les aider au quotidien. Puisqu'on a à peu près 70% des aidants qui n'identifient pas les ressources. À côté de cela, on a aussi un épuisement psychologique, physique.
Le statut d'aidant n'est reconnu dans la loi française que depuis 2015. Pour Agnès Rigutot, c'est une avancée importante, mais il reste encore beaucoup à faire, notamment sur le plan administratif. Elle s'occupe à temps plein de son mari Giovanni, atteint d'une maladie apparentée à Alzheimer.
Difficile, c'est de se souvenir de ce qui m'a été dit.
La charge mentale, elle est forte. Donc il y a des jours, c'est bien, ça va, c'est léger. Et puis il y a des semaines, ben, la fatigue, le temps, les problèmes supplémentaires. Oui, si moi je ne suis pas bien, mon mari émotionnellement, il va être très mal. Et donc comme il va être très mal, eh bien il ne va plus se souvenir, il va se tromper. Et donc je dois rattraper les choses. Mais aidant, c'est un travail, quoi. Je comprends pourquoi ils reconnaissent maintenant un arrêt pour les aidants de 6 mois et qui est rémunéré. Ouf, il était temps.
À noter que les cafés détente sont proposés toute l'année. Ils ont lieu tous les mardis et jeudis de 15h à 17h à la Maison des aînés et des aidants de Rennes. Un reportage demain.
La radio sauvage.
Vous venez d'entendre environ 4 virgules à la fois. Je t'en prie, Romane, reprends donc. Je disais un reportage de moi. La Maison des aînés et des aidants propose 2 activités dans le programme Viens, je t'emmène. Viens, je t'emmène au café détente et viens, je t'emmène au bal du quartier.
Quelle heure est-il ?
6h.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
Et à minuit, plus personne.
6h avant minuit.
En 1977, on découvrait Star Wars et ses fameux sabres laser. Et vous savez ce qui est plus cool que de regarder Obi-Wan et Anakin se battre ? Apprendre à vous battre avec un sabre laser. 6 professeurs...
T'es née en 77, Eva ?
Pardon,
ah, excusez-nous, on discute.
Il n'y a pas de problème. en même temps que la découverte du sabre laser. 2 incroyables personnes sont arrivées. Donc, 6 professeurs, 40 adhérents et adhérentes à Rennes, la Force Academy propose 3 cours de sabre laser par semaine. Pour l'association, pas de bon ou de mauvais côté de la Force. Le seul mot d'ordre, inclusivité. Entre rire et combat, l'AFKEN s'est rendu à un entraînement pour mieux comprendre comment les associations permettent de pratiquer des passions, même marginalisées.
Aujourd'hui, on va travailler sur une paratête, mais c'est un exercice.
Aucune toge de Jedi. Pourtant, les sabres de lumière cognent.
Un combat, ça se passe en 3 rondes. Le combattant a 5 points de vie.
Pierre-Jean a 37 ans et depuis 6 ans, il pratique le sabre laser. Aujourd'hui top 13 européen, Pierre-Jean nous explique les règles de ce sport.
Du coup, l'idée c'est de faire baisser les points de vie de l'adversaire, qu'ils arrivent à 0, et d'en sauvegarder le maximum. Et du coup, en fonction de là, on va toucher, on va décompter des points de vie. Donc l'idée c'est de faire 5-0.
Protège articulation, masque d'escrime, coquille, les équipements ne sont pas à négliger, d'autant plus que la matière des lames est la même que celle des boucliers de CRS, un investissement qu'Esther n'hésite pas à faire. À 24 ans, elle est classée 20e en Europe.
Moi j'aime pas Star Wars à la base. J'y suis allée quand même et j'ai kiffé. Genre franchement c'était trop bien. Tout le monde a sa place et il n'y a pas de catégorie. C'est un sport où tu peux être qui tu veux, même dans le combat. Tout le monde est mis en avant pareil.
Aucune catégorie d'âge, de poids ou de genre donc. Et pour Esther, peu importe les regards, sabre laser rime avec passion, ouverture et diversité.
Il y aura toujours des clichés dessus. Et en vrai, je pense que c'est un tri, pas plus mal.
C'est un sport où le jugement n'a pas vraiment sa place, ni dans le public, ni dans les...
C'est ça. Quand j'en parle à mes collègues ou à ma famille et tout, je ressens pas de jugement, je ressens plutôt de la curiosité et de l'incompréhension pour certains. Moi, j'aime bien le fait que ce soit un sport niche.
Un sport qui tire sa force de l'authenticité, mais pour Adeline Kolkanap, présidente de la Force Academy, défendre l'originalité dans le milieu associatif, ça n'est pas toujours facile.
On essaye justement d'obtenir des subventions. Pour les salles, c'est une tannée. On le sent, parce que la mairie, elle s'en fiche de nous. Pour peu que vous soyez un petit peu à côté, trop original, trop... C'est toujours pareil, hein. Le cadre de la société, hein, bah dès qu'on en sort, il faut se débrouiller tout seul et il faut prendre les chemins de traverse. Mais il y a un de ces quatre. On se fait tout seul.
Merci Lafken et nous souhaitons bon courage à tout le groupe Force Academy du lundi.
Que la force soit avec vous.
Spécialisée en compétition, l'équipe d'Esther et Jean-Pierre s'envole ce week-end pour le UK Open de Londres. Bonne chance.
6 heures avant minuit.
C'est une première en 14 ans d'existence pour le festival I'm From Rennes. Le rendez-vous musical en plein air est aujourd'hui en danger. L'édition 2025 accuse un déficit de 40 000 euros, en grande partie à cause d'une météo catastrophique. Cédric Bauchu, programmateur du festival, explique la situation au micro d'Estelle.
La chose, elle est très simple, c'est qu'on pourra évidemment ne pas faire d'édition 2026. Je pense qu'on sera obligé de faire une pause, clairement.
Cette année, le festival n'est pas passé entre les gouttes. I'm From Rennes affiche un déficit de 40 000 euros, lié principalement aux intempéries.
Du fait qu'il y ait eu un mauvais temps, on a eu beaucoup moins de monde, et puis des gens qui n'avaient pas forcément envie de consommer plus que ça, puisque quand il pleut ou quand il fait froid... Bah évidemment, c'est beaucoup moins joyeux et on a beaucoup moins envie de boire des verres entre amis. Donc la situation fait qu'aujourd'hui, on a été obligé de lancer une campagne de financement participatif qui fonctionne plutôt très bien.
La cagnotte participative, ouverte depuis le 4 novembre, a déjà récolté un peu plus de 6 000 euros sur les 20 000 attendus. Au-delà du soutien financier, l'équipe dit recevoir de nombreux messages du public culturel, rappelant l'importance du festival dans le paysage rennais.
Il ne faut pas oublier que Rennes, ville musicale, bah, nous, on y participe comme plein d'autres acteurs. On a cette spécificité de pouvoir travailler que sur une scène locale et c'est ça qu'il faut défendre en fait.
Pour comprendre le problème, il faut regarder la structure budgétaire du festival. Une part importante vient de l'autofinancement.
Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on s'autofinance sur le budget à hauteur des trois quarts. Et du coup, ça passe par le bar et la restauration notamment, quoi. Et le reste, c'est des subventions ou du mécénat. Nous, ça n'a pas forcément été des grosses baisses de subventions, mais vu qu'on fonctionne vraiment à la limite financièrement, bah aujourd'hui, le modèle économique ne fonctionne plus puisqu'on a perdu justement certaines subventions, quoi.
Face à ces tensions financières, la même question revient. Faut-il rendre I'm From Rennes payant ?
Nous, c'est vraiment pas notre idée. D'une part, parce qu'on souhaite vraiment que cette culture elle soit accessible à toutes et à tous. Et la seconde chose, c'est que comme on travaille sur la scène locale et la scène émergente, nous, notre projet, c'est vraiment qu'il y ait un maximum de public présent pendant les concerts de la scène locale.
Pour préserver l'identité du festival, l'équipe mise sur un financement participatif accessible en ligne.
Alors on peut le retrouver sur notre site internet, on peut le retrouver évidemment sur les réseaux sociaux et autrement c'est via la plateforme qui s'appelle Hello Asso. Comme je dis tout le temps, il n'y a pas de minimum ou maximum. Ça permet justement de réfléchir à une prochaine édition en 2026.
Un défi de taille pour I'm From Rennes, réunir 20 000 euros pour espérer proposer une nouvelle édition en 2026. Une course contre la montre donc pour sauver un festival devenu emblématique et gratuit.
Quelle heure est-il ?
6 heures.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
À minuit, plus personne.
6 heures avant minuit.
Retour sur le festival Marmaille qui avait lieu cet automne à Rennes. Anaïs s'est rendue à la MJC de La Paillette pour découvrir Les Abîmés. Dans cette pièce, la metteuse en scène Catherine Verlaguet se penche sur les violences intrafamiliales à travers l'histoire de deux frères, Petit Lu et Ludo, en proie à la violence de leur père. Alors comment un sujet de société si dur peut-il être abordé avec un jeune public entre 10 et 15 ans ? Réponse de Bénédicte Guichardon, directrice artistique de la compagnie Le Bel Après-Minuit.
Je me dis, il y a urgence aussi pour moi de m'emparer d'un sujet comme ça, parce que c'est un sujet sociétal, les chiffres sont quand même assez atroces sur la violence faite aux enfants. Donc c'est sûr que moi, quand elle est venue vers moi avec ce texte, qui est quand même un texte assez politique aussi, je me suis dit, mais je ne peux pas passer à côté de quelque chose comme ça. Et c'est assez nécessaire pour moi de à la fois de s'adresser à l'enfant, à la fois de s'adresser aux parents, de s'adresser au public large en fait. Mais c'est essentiel. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai fait ça. On ne peut pas tout le temps être dans le drame de l'histoire, mais au contraire, il faut aussi de temps en temps qu'on en rigole, qu'on puisse en rigoler et qu'on puisse s'alléger et qu'on puisse rire en fait. Donc c'est pour ça que c'était très important de travailler sur le rapport des frères. Donc il y a des moments où ils font effectivement des bêtises, où ils vont se courir l'un après l'autre. Et en fait là, ils pensent pas forcément à ce qui se passe à la maison, mais c'est tout d'un coup leur rapport qui est très fort. Ces liens là, pour moi, c'est une vraie leçon aussi de se dire, en fait, oui, on peut parfois avoir un sentiment de solitude, mais il faut aussi ouvrir aux autres, en fait, s'ouvrir aux autres et permettre que les autres puissent nous aider, en fait. Ça, c'est hyper important pour moi.
Marthe Bouillaguet, programmatrice jeune public et coordinatrice des actions pédagogiques à La Paillette.
Je trouve que le spectacle peut être un vecteur, une façon d'aborder des questions qui viennent pas comme ça de prime abord dans les conversations. Et je trouve ça vraiment intéressant la façon dont les enseignants et les accompagnateurs des groupes peuvent s'emparer du sujet d'un spectacle pour pouvoir ensuite détricoter en classe et sur des questions comme celle-ci des violences intrafamiliales peut-être malheureusement aussi repérer des endroits où ça coince dans certaines familles. On a par exemple dans l'accompagnement à la venue au spectacle, on a proposé aux enseignants toujours des clés de lecture pour reparler du spectacle avec leurs élèves et on a communiqué également aux enseignants des associations rennaises qui sont en mesure d'intervenir dans les classes pour justement mettre en garde les jeunes autour de cette question des violences intrafamiliales.
Des témoignages recueillis par Anna et Guillon.
Si, la radio sauvage.
Quelle heure est-il ?
6 heures exactement.
Avant minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6 heures.
Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du temps.
6 heures avant minuit, 18h, 19h, sur Syllabe,
la radio sauvage.